devient difficile de prendre pour les militaires toutes les précautions possibles pour protéger les civils. Pire encore, si les escortes sont imposées aux humanitaires, parce que ça peut compromettre la perception et leur neutralité.
Après l'attaque de Kobe, les transporteurs de la région de Gao s'étaient mis en grève pour exiger la fin des escortes et demander une augmentation du nombre de patrouilles et de postes de contrôle de l'armée sur les routes.
Les explications de David Bachet. Il est 5h42 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
Et on continue de parler de l'Ukraine d'ici 6h, heure de Paris. Comment perçoit-on le conflit sur le continent africain ? Nous sommes à Madagascar où une association soutient clairement le pouvoir de Vladimir Poutine. Notre invitée, la chercheuse Djenabou Cissé, revient sur la diplomatie des pays africains face à cette guerre. Et puis comment assurer une activité économique avec des frontières fermées ? Une question que de nombreux commerçants se posent à la frontière entre le Bénin et le Niger. Nous sommes à Malanville pour le dossier Afrique Éco, mais tout de suite, place au sport. Avec vous, Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Nemo, bonjour à tous.
Le tableau complet de l'Afrobasket est connu. Tournoi prévu en août en Angola. Les éliminatoires ont rendu hier leur verdict.
Et la Guinée s'est qualifiée in extremis, victoire dans un match décisif face au Kenya, 57-44. Même chose pour le Rwanda qui décroche un ticket en éliminant le Gabon, 80-71. Le Nigeria s'est fait très peur, défait lors de leurs trois premiers matchs. Les Nigérians ont remporté les trois suivants, dont le dernier contre le Cap-Vert, 77-62.
Et deux équipes ont réalisé un carton plein dans ces qualifications.
6 victoires en 6 matchs pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants ont terminé par un succès aux dépens de l'Égypte, 82-76. Autre sans faute, celui du Sénégal, dont le choc avec le Cameroun a tenu toutes ses promesses. Score final, 83-76 après prolongation. Première défaite sans conséquence en revanche pour la RDC. Nemo, les basketteurs congolais étriés par le Soudan du Sud, 89-58.
Et on quitte les parquets, Victor, pour parler athlétisme, direction la ville de Sali, à une quarantaine de kilomètres de Dakar.
Hier avait lieu le marathon international du Sénégal, environ 1500 coureurs au départ de cette 6e édition. Plusieurs distances possibles, 2, 5, 10, 21 et les 42 km 195 de l'épreuve reine, avec aussi une belle histoire sur le semi-marathon. Retour sur cette journée avec Wani Johnson Sambou.
Et la belle histoire est écrite par la lauréate chez les dames. Anaming Maeza a laissé un bébé de 5 mois à l'hôtel pour aller décrocher sa 4e victoire d'affilée sur 21 km, son 6e podium en autant de participations. Et derrière sa victoire en 1h45, la Togolaise avait bien un message à faire passer.
Ne jamais abandonner, ne pas se limiter dans la vie. De dire que peut-être ma carrière s'arrête au moment où j'ai un enfant, non. Moi, ma carrière, ça continue et que ça soit ainsi pour beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes aussi.
Mais le grand gagnant de cette 6e édition du marathon international du Sénégal, c'est Mam Malik Gueye. Pour sa première participation à l'épreuve reine des 42 km, l'athlète sénégalais s'est imposé en 2h46. La réussite de l'événement alimente des rêves de grandeur chez les organisateurs, même s'ils n'ont pas réussi cette année à atteindre leur objectif en termes de mobilisation. Robert Niaï, promoteur du marathon.
On voulait atteindre 2000 participants, mais on sait qu'on ne l'a pas atteint.
Il faudrait qu'on ait 20 000 participants. C'est facile, si Dakar Demdik met en service ses cars à Dakar, mais les gens viendront. Et c'est ça qu'on veut viser.
Wahani Johnson Sambou, Dakar, RFI.
Autre course, le tour cycliste du Rwanda s'était lancé hier à Kigali. Le Belge Aldo Tailleux porte le maillot jaune après sa victoire sur le prologue. Un contre-la-montre individuel de 4 km en attendant la première vraie étape aujourd'hui. 158 km entre Rukomo et Kayonza.
Et puis du football, Liverpool file vers le titre en Angleterre.
11 points d'avance sur Arsenal pour les Reds et Mo Salah qui sont allés gagner à Manchester City 2-0. L'Égypte si un meilleur buteur de Première Ligue en a profité pour inscrire une 25e réalisation. Le futur adversaire de Liverpool en Ligue des Champions, le PSG, est allé gagner à Lyon 3-2, doublé du Marocain Achraf Hakimi et joli but de l'inévitable Ousmane Dembélé.
Merci Victor Missistrano.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Et les principaux titres de ce lundi 24 février 2025, date désormais symbolique, elle marque le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Trois ans plus tard, trois ans de guerre, le front semble aujourd'hui figé dans la région du Donbass comme autour de Koursk, alors que Moscou dit prévoir une nouvelle réunion avec des représentants américains qui lui sont désormais favorables à la fin de la semaine. Nous sommes à Kiev aujourd'hui. D'autres grands titres, c'est l'Allemagne, résultat des élections législatives anticipées, victoire des conservateurs. La CDU de Friedrich Merz, des démocrates chrétiens qui devancent l'AFD, le parti d'extrême droite avec un score record avec 20,8% des voix. Cette guerre en Ukraine, on en parle également via le prisme africain, continent où des groupes pro-russes continuent de relayer le discours de Moscou. C'est le cas à Madagascar, à l'instar de l'association Les Amis de la Russie, créée en 2021, juste avant le début du conflit, et reconnue par le Kremlin. Si les autorités malgaches se veulent toujours neutres, ce groupe, en revanche, composé d'environ un millier de membres, affiche un soutien politique clair à Vladimir Poutine. Reportage Pauline Le Troquier.
Richard Akoutounerine nous accueille chez lui, un drapeau russe sur la table basse, un autre brodé sur sa chemise, signe de son attachement au pays où il a étudié 10 ans, signe tout aussi politique, dit-il. Comme depuis 3 ans, le président des Amis de la Russie partage ouvertement le narratif d'un conflit qu'il refuse de qualifier de guerre.
C'est une opération spéciale militaire de dénazification. Si les groupes extrémistes se trouvent à la porte de votre pays, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez protéger votre indépendance. C'est normal la réaction du président Poutine.
L'association relaie sa lecture du conflit en ligne ou lors de conférences organisées aux quatre coins de l'île. Le discours imprime auprès d'une partie du monde intellectuel malgache sur fond de rejet d'un narratif occidental.
Les médias occidentaux ne veulent pas comprendre les événements, mais la réalité est là. L'Ukraine, il ne différencie pas les objectifs et les cibles, mais tout à fait contraire avec le président Poutine. Il opère dans les zones militaires, zones sensibles stratégiques, matérielles.
Le 11 mars 2022, aux premières heures de l'offensive russe en Ukraine, une trentaine de manifestants érigent des banderoles de soutien à Moscou devant l'ambassade russe à Madagascar. L'événement est structuré, n'a rien de spontané et bien qu'isolé, laisse deviner l'influence de réseaux activistes russes à l'intérieur du pays. De quoi questionner la neutralité affichée par les autorités malgaches, comme l'estime Serge Zafmaouv, analyste géopolitique.
La neutralité se discute, hein. Faut pas oublier que Wagner a été actif dans les élections malgaches. Donc c'est une neutralité engagée, je dirais.
Les affinités entre les deux pays n'ont rien d'étonnant pour ce spécialiste qui y voit l'héritage de liens historiques.
Il y a beaucoup d'anciens de la Russie, en fin de compte, au sein de l'administration malgache, civile et militaire. Donc c'est un vecteur qui permet à certaines personnes de dire qu'on peut de toute façon de faire évoluer les relations de Madagascar dans la multipolarité dans laquelle joue la Russie. Par exemple, les BRICS.
La portée de ces voix pro-russes reste limitée au sein de l'opinion publique malgache. Cette dernière suit de loin l'évolution d'un conflit dont les conséquences pèsent lourd sur le coût de la vie. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Reportage à retrouver sur notre application RFI Pure Radio. Et on en parlait à l'instant en prenant l'exemple des autorités malgaches. L'Afrique, depuis 3 ans, a tenté d'adopter une neutralité face à ce conflit en Ukraine. Les pays du continent sont loin d'avoir une position commune, mais composent avec les belligérants dans le but de préserver leur intérêt, qu'ils soient économiques, politiques ou militaires. Pour en parler ce matin, notre invité est Djenabou Cissé, chercheuse au sein de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Elle voit cette diplomatie africaine de manière plus transactionnelle qu'idéologique et résolument non alignée. Extrait.
Depuis au moins les années 90, les pays africains sont dans une dynamique de diversification de leurs partenariats. Il y a vraiment plutôt une volonté de pouvoir garder une liberté d'échange avec divers partenaires et donc de ne pas avoir de relations trop antagonistes et donc de ne pas choisir entre des camps.
Ne s'agit-il pas aussi tout simplement de pragmatisme économique ?
Les pays africains importent au moins 30% de céréales en provenance de la Russie, dont 95% de blé. Et selon la CNUSED, au moins 25 pays importent plus du tiers de leur blé auprès de la Russie ou de l'Ukraine, et 15 pays importent plus de la moitié. Donc tout ceci explique aussi cette position de neutralité.
Quelle a été la stratégie de l'Ukraine sur le continent africain ?
On observe déjà cette ouverture de front par l'Ukraine qui souhaitent vraiment combattre les troupes de Wagner et les troupes russes partout où elles sont présentes, mais aussi une offensive diplomatique avec l'ouverture de nombreuses ambassades, certaines des dernières en date étant en avril dernier en RDC et en Côte d'Ivoire par exemple. Donc on a vraiment une implication récente de l'Ukraine, mais qui est assez offensive et qui gagnera, je pense, à se développer dans les prochaines années pour contrer l'influence russe, principalement.
Entretien entre Lisa Fabian et Jenna Boussissé à retrouver en intégralité ce matin sur nos antennes dans un peu moins d'une heure et sur RFI.fr. La chronique Afrique Éco ce lundi au Bénin, dans le nord-est du pays, à la frontière avec le Niger où le commerce reste toujours compliqué. Les autorités béninoises ont de leur côté rouvert leurs frontières terrestres après l'avoir fermée suite au coup d'état chez leurs voisins, mais ce n'est pas le cas des autorités à Niamey. Alors pour contourner cette interdiction, il y a le fleuve Niger dont la traversée a de nouveau été autorisée par le Bénin, ce qui permet à l'activité de reprendre timidement. Illustration ce matin à Malanville où s'est rendu notre envoyé spécial Magali. Lagrange.
On a chargé au moins plus de 7000 sacs pour cette semaine. Sur le marché bas sont pleins, on décharge plus de 15 000 sacs par semaine.
Des camions chargent et déchargent à l'entrée du marché de Malanville. Souley Sifou est grossiste. Il se tient près de piles de gros sacs de haricots en provenance du Nigeria et du Niger, même si les autorités nigériennes ont interdit en octobre l'exportation de produits vivriers, dont le niébé.
Oui, ça passe. L'homme a tous les moyens pour pouvoir passer. On se comprend parce que c'est la population qui en souffre. Bon, pour faire venir actuellement l'haricot du Niger, on passe par le Nigeria. Il passe par des voies clandestines pour pouvoir nous approvisionner. Donc, c'est un risque. Et les produits augmentent beaucoup de prix au niveau du transport et au niveau des prix d'achat. Actuellement, nous vendons les haricots à 44 000 francs pour le Niger.
Certains échanges entre le Bénin et le Niger se font par voie terrestre via le Nigeria, d'autres par pirogue sur le fleuve Niger qui sépare les deux pays. Salifou est chauffeur de camion. Avant la fermeture de la frontière, il allait jusqu'au Niger. Maintenant, il s'arrête à Malanville et doit patienter plusieurs jours pour pouvoir décharger.
On décharge au bord de l'eau. Mon camion est là-bas. Maintenant, on ne trouve pas pour décharger le même jour. On fait 5 jours, 6 jours avant de décharger. C'est pas hors d'arriver, on décharge. Ce matin, je suis en 69, ouais. 69e, je suis. Comment on va faire? On n'a pas l'argent de l'hôtel. On dort en bas des camions avec les moustiques. On est chauffeur, gardien.
La levée de l'interdiction de la traversée du fleuve a un peu apaisé la situation économique à Malanville. Mais cette alternative ne convainc pas tout le monde et pour certains détaillants du marché, la situation est encore loin d'être réglée.
Lorsque les frontières étaient complètement fermées, donc les gens ne passaient pas, ils arrivaient vraiment à faire une semaine sans rien vendre. Maintenant, lorsque maintenant ils ont autorisé que les gens passent par fluvial, au moins ça a changé un peu. Mais pas comme auparavant, donc, c'était complètement ouvert. Ce sont d'abord les Nigériens qui arrivent à Malanville, qui achètent beaucoup. Même ceux qui viennent en même temps d'abord sur le frontière là-bas, là, on les bouleverse, donc on les dérange même des fois. Donc ils sont pressés de quitter Malanville, ce qui nous empêche maintenant la clientèle.
Les commerçants de Malanville continuent d'espérer la réouverture de la frontière avec le Niger. Magali Lagrange, de retour de Malanville, RFI.
(rire) 5h55 ici à Paris. Avant de retrouver Arnaud Pontus pour le début d'RFI Matin, c'est l'heure de retrouver Maman pour son humeur du lundi matin. Et Maman, vous nous dites qu'au Gondwana, il y a de drôles d'hommes d'affaires.
Oui, un très très démocratique république, les Gondouanais eux-mêmes disent que dans leur pays, tout est à faire parce que rien n'a été fait. Un credo que les plus malins d'entre eux et les futés de passage reprennent en mode vibreur, un credo qu'ils mettent à leur sauce, à savoir que dans ce pays, il y a tout un tas d'affaires à faire, des affaires juteuses, sonnantes et trébuchantes. Et quand il y a des affaires, les plus malins se transforment tout de suite en hommes d'affaires. Mais comme en très très démocratique république, nous ne faisons jamais rien comme les autres, ces hommes d'affaires qui courent les rues de Gondwana City, notre belle capitale, sont des hommes d'affaires d'un genre bien particulier. D'abord, et on en a déjà parlé ici même, il y a ces hommes d'affaires sortis tout droit d'un poème capitaliste. Oui, ça existe, puisque leur nom contient une rime, c'est les fonctionnaires hommes d'affaires, les fonctionnaires milliardaires. Pas besoin de nous appesantir sur leur cas, tous les Gondouanais les connaissent, tout comme ils connaissent leur alter-ego, hein, les alter-ego de ces fonctionnaires milliardaires. J'ai cité les militaires milliardaires. Mon ami, ne commence pas déjà à fouiller dans ton dictionnaire à la recherche de la définition du mot oxymore, hein. Oui, fais comme tout le monde, observe un silence éloquent et reste dans un clair obscur. C'est mieux pour toi devant les militaires milliardaires. À côté de ces deux types d'hommes d'affaires, ou plutôt grâce à ces hommes d'affaires, fonctionnaires et militaires, au Gondwana est né un autre type d'hommes d'affaires, les hommes de marché. Pas les marchés où on achète oignons, tomates, sorgho, chèvres et moutons, hein. Non, non, non. Des marchés d'un genre bien particulier. Des marchés réservés aux initiés, ceux qui savent, ceux qui connaissent un fonctionnaire ou un militaire bien placé. J'ai parlé des marchés publics. Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre un acheteur public ou privé, l'État, les collectivités territoriales, l'armée, l'hôpital, etc., qui a des besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, et un opérateur économique public ou privé, c'est-à-dire notre homme d'affaires, ou plutôt notre homme de marché. Eh oui, homme de marché, parce qu'il ne fait que ça. Et c'est très très largement suffisant, hein, parce que c'est assez pour faire de lui un homme d'affaires milliardaire. L'homme de marché est un homme d'affaires particulier parce que, contrairement à un entrepreneur normal qui va au turbin tous les jours, crée des centaines d'emplois, paie des impôts, en veux-tu en voilà, bouffe du stress chaque fin de mois pour payer les salaires de ses employés, eh ben, l'homme de marché ne vit que de bons de commandes, de factures et de versements et virements. Il n'a pas besoin de bureau, de secrétaire, de cabinet comptable et responsable RH, non. Il a juste besoin de connaître un fonctionnaire ou militaire homme d'affaires bien placé pour faire des affaires qui feront de tous des milliardaires en deux temps, trois virements. À demain.
Bonne journée, Maman, et à demain. Merci à Pauline Berthélémy à la réalisation, à Xavier Besson à la rédaction en chef de cette demi-heure. Merci à vous également, chers auditeurs. Pour l'heure, on dit bonjour à Arnaud Pontus pour le début d'RFI Matin. Bonjour Arnaud.
Bonjour Nemo en puce et bonjour à tous. RFI en direct de Kiev dans une heure. Édition spéciale avec Andréane Mellard et ses invités en ce 24 février 2025. 3 ans jour pour jour après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine. Après 3 ans de guerre, quel est l'état d'esprit des Ukrainiens? On leur donne la parole ce matin. Le sort du pays peut-il se jouer sans eux alors que Trump et Poutine se parlent? C'est aussi l'un des grands thèmes qu'on évoquera tout au long de cette journée sur RFI.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Après 3 ans de guerre en Ukraine, quel est le rapport de force sur le terrain? Que faut-il attendre des pourparlers entre les États-Unis et la Russie? À quoi ressemble le quotidien des Ukrainiens et des Russes? Quelles sont les conséquences économiques du conflit? Nous répondrons à toutes vos questions.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Ce lundi sur RFI.
Pourquoi les chouettes effraient?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Leur aspect fantomatique, leur vol furtif, leur chuintement allié à un regard perçant alimentent toutes les superstitions. Comment mieux connaître ces oiseaux de nuit au comportement si proche du nôtre? Pourquoi les chouettes effraient sont très chouettes?